Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Dominique Reynier, il y a un an, à la même époque et au même endroit, je demandais à Jérôme Fourquet, directeur général de l'IFOP, si le duel Macron-Le Pen au présidentiel était inéluctable. Aujourd'hui, au politologue, Dominique Reynier, professeur des universités à Sciences Politiques Paris et directeur général de Fondapol qui investigue son analyse en permanence le terrain politique, à la lumière du résultat des élections régionales, est-ce que la donne politique a changé?
Alors, Charles Villeneuve, la donne politique a évolué, mais elle n'a pas été bouleversée. Comme c'est une question qui se pose au jour le jour, nous ne le sait de quoi demain sera fait, il est raisonnable aujourd'hui de considérer que le second tour de l'élection présidentielle de 2022 opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Il n'y a pas d'inéluctabilité, il peut se passer des choses qui empêcheraient ce duel, mais à ce jour, avec les données que nous avons, c'est la situation qui reste la plus probable du côté du président sortant comme du côté de la présidente du Rassemblement national.
On est à peine à 8 mois des élections présidentielles. Est-ce qu'un troisième homme ou une troisième femme peuvent bousculer le scénario prévisible de l'échéance de 2022?
Oui, c'est parfaitement possible, alors que les auditeurs ne soient pas étonnés de ces réponses, parce que ce qu'il manque maintenant, d'ici l'élection présidentielle, et surtout d'ici, je veux dire, janvier 2022, parce que là, les dés seront jetés, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la composition de la ligne de départ. Et ce qu'il manque ensuite, c'est que lorsque nous aurons une ligne de départ, quel sera le discours que tiendront les champions candidats à la première place du podium? Je m'explique. La droite, qui en quelque sorte électoralement devrait gagner cette élection présidentielle et qui peut-être ne sera même pas au second tour, c'est le très grand paradoxe de cette période, c'était d'ailleurs déjà le cas en 2017, la droite qui devrait électoralement gagner cette élection présidentielle, mais qui peut-être ne le pourra pas, n'a pas encore défini un champion, ni même exactement les règles pour choisir son champion.
Mais ça peut venir, vous avez vu que de plus en plus, les deux candidats les mieux placés, semble-t-il, en tout cas au mois d'août 2021, c'est-à-dire Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, progressent, et notamment beaucoup chez les Républicains.
Progresse dans les enquêtes d'opinion, vous voulez dire?
Oui.
Oui, bien sûr, mais d'un côté, on a un parti, les LR, qui assure devoir se choisir un candidat ou une candidate, selon une procédure qui n'est pas encore tout à fait arrêtée ou pas très claire. Les primaires sont possibles. De l'autre côté, on a...
Elles sont dévastatrices aussi.
Elles peuvent être dévastatrices. Elles peuvent aussi empêcher un premier tour de massacre où il y aurait plusieurs candidatures qui empêcheraient chacun d'aller au second tour. Mais il faut rappeler, les auditeurs le savent, que ni Xavier Bertrand ni Valérie Pécresse ne sont des membres des LR. Et donc, à ce jour, sur le papier, les LR n'ont même pas de candidat à l'élection présidentielle. Avoir été éliminé en 2017 au premier tour de l'élection présidentielle, quand on est le parti qui vient, même si la ligne s'est un peu perdue, du fondateur, le général de Gaulle, inventeur de cette élection présidentielle, et n'être pas présent à l'élection ou au second tour à deux reprises consécutivement, c'est quelque chose qui marquerait sans doute la fin de ce parti. Donc, il va bien falloir qu'LR soit investisse un candidat, qui ne serait pas membre des LR, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, soit choisisse par une procédure à laquelle il attacherait son destin, un champion, et là la compétition peut s'ouvrir, la méthode devra être définie, ça peut être les primaires qui sont effectivement périlleuses, mais l'absence de primaires peut aussi porter préjudice aux candidats de droite qui n'auraient pas le soutien d'une organisation et de ses militants.
Alors justement, ces élections régionales, le président de la République est sorti apparemment affaibli de la séquence électorale de juin dernier. Au régional et au départemental, les candidats de La République En Marche ont fait des scores historiquement faibles pour un parti présidentiel. Vous en convenez?
Oui, mais vous avez raison, mais c'est plus un échec de La République En Marche que du président Macron.
Donc ça ne peut pas vraiment être sans conséquence. Est-ce que ça peut être plutôt vraiment sans conséquence pour le futur candidat Macron?
De toute façon, c'est pas un bon, ça n'a pas été un bon cycle pour le président Macron. C'est parce que on a bien identifié qu'il avait souhaité que son parti obtienne des succès dont, je dirais, le niveau n'avait pas été défini à l'avance. Au niveau départemental ou régional, ça n'a pas été le cas. Ça ne pouvait pas être le cas, Charles Villeneuve. Moi, ça n'a pas cessé de m'étonner, cette idée que La République En Marche pouvait rencontrer un succès aux élections locales, départementales et régionales. Ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible parce que La République En Marche ne possédait aucun département, aucune région, puisque le parti n'existait pas en 2017. Donc, ce n'étaient pas des sortants. Or, les sortants ont toujours un avantage, et on l'a vu d'ailleurs, puisque tous les sortants ont été réélus. Deuxièmement, quand vous n'êtes pas sortant pour prendre le pouvoir dans une région, il ne faut pas avoir la majorité au niveau national, parce qu'en général, on utilise ces scrutins pour protester contre ceux qui ont la majorité au niveau national. Et donc, La République En Marche, je dirais, avec une espèce de logique implacable, ne pouvait absolument pas, ni au municipal en 2020, ni au régional départemental en 2021, avoir quelque succès que ce soit. Donc, le score est très faible, ça c'est certain, ça n'est pas un bon cycle pour le président Macron, mais on a l'impression que nous sommes dans une période nouvelle, parce qu'il faut faire attention au regard qu'on pose sur ces événements. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, c'est fatal. Il ne s'en relèvera pas. Le président en place, avec sa majorité défait à ce point, c'est fatal. C'est fini tout cela. On a un président qui a été élu sans parti, qui va peut-être être réélu sans avoir de parti, toujours, puisque ça n'a pas vraiment existé. Peut-être ne sera-t-il pas candidat, peut-être sera-t-il battu, on verra bien. Mais il pourrait être réélu aussi bien et sans parti. Donc c'est une période nouvelle. Et il est possible que les Français dissocient complètement l'élection présidentielle, qui va les intéresser, des élections régionales et même des élections municipales, qui les ont très peu intéressés, ce qui est en soi un sujet très préoccupant.
Alors, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron reste dans les sondages à un niveau assez élevé en termes de popularité. Et est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un effet d'optique, d'un leurre, ou bien que le socle d'adhésion à la personne du président reste solide?
Il y a un socle d'adhésion qui reste solide, qui est observé depuis 2017. C'est un phénomène, d'ailleurs, on peut dire sans précédent, parce que ses prédécesseurs ont été fortement touchés à un an de la présidentielle. Mais c'est aussi le fait d'une absence d'alternative. Il n'y a pas de figure. C'est quand même extraordinaire de se dire, qu'on soit de droite ou de gauche, que soit depuis 2012, pour ceux qui sont de droite, c'est-à-dire ça fait 10 ans, soit depuis 2017, pour ceux qui se sentent proches du PS ou OPS, c'est-à-dire ça fait 5 ans bientôt, on n'a pas pu voir émerger une figure avec un discours capable de faire écho aux préoccupations de sa famille politique, de son camp en quelque sorte, d'énoncer des lignes d'horizon qui soient mobilisatrices, de donner le sentiment que la relève était possible, qu'une alternative se formait. Rien du tout, rien du tout. Pas d'idée, pas d'idée force, pas de charisme, pas de figure qui a dominé cette vie politique depuis 5 ans, à part en effet le chef de l'État, son Premier ministre à tel ou tel moment, quelques-uns de ses ministres qui ont été plus ou moins visibles, mais il n'y a pas eu de figure. Hein. Une figure importante comme celle de Nicolas Sarkozy a été retenu, laissé de côté par les démêlés avec les affaires. Voilà, il n'y a pas de... C'est une espèce de paysage dynamité en 2017, 2016 je dirais, parce que c'était les primaires qui ont commencé. C'était là la remarque que vous faisiez, Charles Villeneuve, sur le danger que les primaires font courir à des partis. Mais il n'y a pas eu de relève, pas de figure. Et c'est dans une espèce de morne paysage, au fond, que les Français jugent.
Donc vous ne partagez pas la formule de Dominique Bussereau, qui est l'ex-président de Charente-Maritime, selon laquelle Macron, c'est Simone Veil, c'est-à-dire une popularité qui ne se traduira pas forcément dans les urnes.
C'est pas tout à fait... Alors, d'abord, c'est possible. Moi, je suis très modeste et très prudent, parce que vraiment, ce sont des situations tout à fait nouvelles et très mouvantes. Hein, très mouvantes, parce que, vous le savez, Charles Villeneuve, le contexte dans lequel nous sommes, sous la cinquième, il n'a jamais été expérimenté. Hein. On ne sait pas où nous allons sur le plan sanitaire, on ne sait pas où nous allons sur le plan économique, à moins d'1 an de la présidentielle. Franchement, là-dessus, avoir des certitudes, c'est faire des paris Et moi, je n'en fais pas. Mais par contre, j'aurais là un désaccord avec Dominique Bussereau sur le fait qu'il ne s'agit pas d'enquêtes de popularité seulement, hein, qui peuvent vous permettre de dire que vous appréciez une personne, mais c'est autre chose quand on vous demande si vous êtes disposé à voter pour elle. Peu de personnes se voyaient voter pour des figures populaires, comme notamment Simone Veil, qui incarnait quelque chose de très grand et d'immense, mais qui n'était pas associé à l'idée du pouvoir et de son exercice. Par contre, Emmanuel Macron, dans les sondages d'intention de vote, ça vaut ce que valent les sondages, mais il faut bien dire, moi je le dis avec force, ce sont des outils extraordinairement efficaces. Il leur arrive de se tromper, bien sûr, mais ils sont d'une très grande efficacité et il faut les comparer avec les résultats électoraux. Eh bien, Emmanuel Macron est le candidat qui se retrouve aujourd'hui encore au second tour.
Alors, Dominique Reynier, est-ce que vous considérez que le président de la République, parce qu'il faut regarder sa situation aussi, évidemment, au fur et à mesure qu'il va rentrer dans l'atmosphère de l'élection présidentielle, ça use, hein, ça use pas seulement les souliers, ça use aussi l'énergie, ça use évidemment les arguments qu'on utilise. Mais de quel levier peut-il disposer pour donner un nouveau souffle à son mandat ? Est-ce que on ne cesse de dire il faut qu'il continue à réformer ? Et si oui, dans quelle direction ?
Oui, alors ça c'est une grande question. Et si vous me permettez, je fais un lien avec la question précédente ou l'évocation précédente des élections régionales. Elles ont eu un effet important sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'au fond, jusqu'aux élections régionales et départementales, il y avait cette idée que Emmanuel Macron allait être réélu sans coup férir parce qu'il allait avoir en face de lui Marine Le Pen et qu'il lui suffirait de jouer sur le thème du barrage à la candidate du Rassemblement national. Je pense que ça, c'est terminé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudra plus que cela. Il faudra que le chef de l'État, s'il espère être réélu, puisse présenter aux Français non seulement un bilan de son action qui a été difficile sur 5 ans, tout le monde en est témoin, notamment en raison de cette pandémie.
Mais des projets.
Et des projets, et avec un discours, et une vision.
La réforme des retraites ?
La réforme des retraites, elle fait partie, d'ailleurs il l'a dit lui-même dans son allocution du 13 juillet, que la réforme des retraites ait lieu avant l'élection présidentielle, ça ne paraît pas raisonnable de l'imaginer, hein, ça ne paraît pas possible. Il faudrait aller au pas de charge, ce qui serait antidémocratique, ou bien il faudra accepter que, si on prend le temps, l'élection présidentielle se déroule sur fond de crise sociale et d'affrontements autour de la retraite. Donc c'est pas possible.
Mais le climat social et économique ne va pas se terminer durant l'élection présidentielle, non, ou la campagne de l'élection présidentielle.
Non, c'est sûr.
Ça restera dominé par la question sanitaire.
Ça restera dominé par la question sanitaire. Ce sera peut-être aussi obscurci par le contexte économique. Il n'est pas très clair puisqu'il est très lié à la question sanitaire. Hein. Si nous avons à replonger dans des formes de confinement diverses et variées, eh bien l'impact économique sera important. Et puis, il y a toujours cette question qui est pendante avec ma fondation dont vous avez parlé. La Fondapol, on suit depuis, on a fait un grand travail sur la quantification du terrorisme islamiste depuis 1979 dans le monde et en France aussi, mais simplement en France depuis mars 2012, avant l'élection présidentielle 2012, il y a 294 personnes qui ont été assassinées dans les attentats islamistes. Et donc, La possibilité qu'il y ait un événement de ce type, elle n'est pas nulle. Il y en a eu tellement, elle n'est pas nulle. Et donc, si vous avez en plus un élément comme celui-là, ça va jouer un rôle important. Il y a sans cesse, en réalité, on a tous à l'esprit, il y a sans cesse, malheureusement, des drames de ce type. Ils vont peser sur la campagne. C'est un effet, c'est pas un effet d'agenda, c'est un effet de l'époque dans laquelle nous sommes. Nous n'allons pas en sortir. Elle ne fait que s'assombrir de ce point de vue-là, malheureusement. Et donc, cette présidentielle est à la merci de tels événements et non simplement des conjonctures très fragiles.
Dominique Reynier, on va faire relâche à peine quelques minutes pour examiner ensuite la situation du Rassemblement national en quête d'une stratégie.
Europe 1, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Dominique Reynier, je rappelle que vous êtes directeur général de Fondapol pour réaliser l'autopsie des différentes familles politiques dont les leaders se positionnent à 8 mois des présidentielles. Et c'est ce que nous allons continuer à faire en examinant le Rassemblement national en quête d'une stratégie. L'autre grande perdante du scrutin du mois de juin 2021, c'est bien évidemment Marine Le Pen et le Rassemblement national. Est-ce que vous vous attendiez à cette contre-performance alors que les observateurs croyaient tous à une nouvelle percée de fond sur fond d'insécurité et de fracture sociale? Et comment l'expliquez-vous? Par le phénomène de l'abstention?
Oui, alors c'est toujours facile, après coup, de dire qu'on s'attendait à un résultat. Je ne le dirai pas. Je ne m'attendais pas à ce que le Rassemblement national soit si loin de l'emporter dans les régions où il était donné comme menaçant, en particulier PACA et les Hauts-de-France, bien sûr. Maintenant, nous produisons un indicateur de la protestation électorale depuis septembre 2019, parce qu'on a le sentiment, on l'a fait spécifiquement pour ça, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des vases communicants entre le fait de voter pour des partis anti-système, la France Insoumise, le RN et quelques autres, mais qui sont plutôt des miettes, le fait de voter blanc et le fait de s'abstenir. Et qu'au fond, il faut étudier l'ensemble de ces phénomènes pour voir si les électeurs, quand ils ne sont pas là, par exemple sur le vote RN, ne sont pas passés ici, par exemple l'abstention. Et c'est ce que nous avons observé lors des élections régionales. L'abstention incroyable, moi, elle ne cesse de m'étonner. Et je continue à dire que malgré tout, nous n'en prenons pas la mesure collectivement, peut-être parce que l'événement est sidérant, a concerné à peu près 31 millions d'électeurs. C'est incroyable. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du suffrage en France, que ce soit universel ou masculin. Ça ne s'est jamais produit depuis 1848 qu'une élection nationale laisse de côté autant d'électeurs qui ont le droit de voter. Quand on s'interroge sur cet événement, il ne peut pas être expliqué par le Covid. Le Covid a une part, bien sûr, dans cette causalité, mais c'est une part marginale. Il y a un autre indicateur. On s'aperçoit que les électeurs du RN sont ceux qui se sont le plus abstenus. Donc, je ne multiplierai pas les arguments, mais il apparaît que cette abstention historique, déjà perceptible au second tour des municipales de 2020, le 28 juin, déjà perceptible aux élections législatives de 2017, déjà perceptible au second tour de l'élection présidentielle de 2017.
Vous le faites remonter aussi loin.
Déjà perceptible, Charles Villeneuve, lors des élections municipales de 2014. C'était bien sûr pas les niveaux d'aujourd'hui, mais déjà on avait battu des records. On les a oubliés, c'est normal, hein. Mais quand on revoit cette série, il y a une tendance des électeurs à sortir du jeu électoral. Et ils ne sortent pas parce qu'ils sont heureux.
Mais ça atteint spécifiquement le Rassemblement national. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est dû aux ambiguïtés du Rassemblement national avec sa volonté de dédiabolisation ? Marine Le Pen ne se retrouve pas dans un entre-deux qui est préjudiciable à son mouvement ? Est-ce que ça n'est pas ça, essentiellement ?
Il y a de cela, et on peut spéculer là-dessus parce qu'on n'a pas de certitude, il y a de cela, la normalisation du Rassemblement national peut décevoir des électeurs qui sont très protestataires, mais enfin là, il s'agit de beaucoup d'électeurs, hein. Donc ça ne suffit pas. Il peut y avoir aussi le changement de nom. Nous n'avons pas suffisamment songé que ça pouvait avoir de l'importance de passer du Front National au Rassemblement National. C'est quand même une rupture en termes de marque, hein, qui a des conséquences. Et puis, il y a peut-être une autre hypothèse qui est que l'électorat de Marine Le Pen ne se sente disposé qu'à des occasions où il peut produire la rupture, et plus qu'autrefois encore. C'est-à-dire que ces élections régionales ne l'ont pas intéressé, elles n'ont pas intéressé grand monde, hélas, ne l'ont pas intéressé, mais les auditeurs peuvent le mesurer, je vais dire les choses ainsi. Au deuxième tour de la présidentielle, Charles Villeneuve, en 2017, il y a eu 12,5 millions d'abstentionnistes. 12,5 millions. Là, on en a presque 31 millions au régional. Est-ce qu'on va avoir 31 millions d'abstentionnistes au second tour de la présidentielle ? Si c'est le cas, nous avons une crise de régime, la République est par terre, ça ne marchera pas. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que nous avons 18 millions d'électeurs qui vont revenir dans le jeu électoral, qui s'est abstenu, qui vont revenir. Mais bien sûr, je crois moi ça. Mais s'ils reviennent, ce n'est pas pour dire qu'ils sont contents.
Mais alors, votre analyse pose la question de savoir si les électeurs n'ont pas déjà intégré les limites du vote protestataire. Est-ce qu'il ne cherche pas aujourd'hui une autre voie pour se faire entendre ?
Il est possible que les électeurs, qu'une proportion significative des électeurs français se mettent à penser que le vote n'a plus rien de protestataire. Et que si l'on veut protester vraiment, même voter pour le RN n'est pas satisfaisant. Et que la voie la plus protestataire, c'est la voie qui est en dehors des élections. C'est la figure extraordinairement présente aujourd'hui des Gilets jaunes, hein, c'est-à-dire des mouvements de protestation qui ne veulent pas de parti, qui ne veulent pas de syndicat. Ils protestent contre... C'est le dégagisme universel. Hein. Aucun parti, aucun syndicat, on ne veut pas de candidat aux élections, on ne veut pas aller voter, on bloque, on proteste, nous sommes nous-mêmes présents sur les ronds-points, on utilise les réseaux sociaux, et tout le système est passé, tout le système démocratique électoral est en crise.
Mais à ce moment-là, si on suit toujours votre analyse, est-ce que le Rassemblement national et sa dirigeante ne sont pas devenus, moins utiles ?
Ils sont en train de devenir moins utiles, moins pertinents pour les électeurs qui veulent pirater le système politique à coup de vote. Jusqu'en 2017, on pouvait faire trembler le système en votant. Ça permettait quand même de laisser la protestation à l'intérieur des règles démocratiques, du fonctionnement régulé, de l'élection. Là, nous sommes peut-être dans une époque où les électeurs vont chercher en dehors de l'élection comment bouleverser le système. C'est beaucoup plus préoccupant pour nous tous.
Alors, puisqu'on examine toujours l'affaiblissement du Rassemblement national, au moins dans le cadre du résultat des élections régionales, et on se projette sur les présidentielles, bien sûr, est-ce que la droite hors les murs, ce qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire les partisans d'une union des droites, qui se cherchent un nouveau champion, est-ce qu'Éric Zemmour peut être ce champion-là ? Est-ce que vous croyez dans son potentiel électoral et à son éventuelle capacité à troubler le jeu politique ?
Mais Charles Villeneuve, une élection présidentielle, c'est une énorme machine qu'il faut construire. C'est un énorme défi. Il faut à la fois une très grande notoriété. Il faut un discours puissant. Il faut des équipes. Il faut une inscription dans le paysage politique.
Alors, donc vous êtes sceptique.
Non, ça c'est pas. Non, j'allais vous dire, mais ça s'est pas passé comme ça avec Emmanuel Macron.
Eh oui.
Qui a surgi.
C'est un précédent quand même.
C'est un précédent. Et dans les enquêtes que nous menons à la Fondation, on a 55% des personnes interrogées. On en interroge 3000 régulièrement tous les 6 mois. On a 55% lors de la dernière mesure qui nous disent vouloir un candidat qui ne se réussit d'aucun parti. Et donc, cette idée-là, qui est d'ailleurs très présente dans toutes les démocraties, encore récemment en Bulgarie, on a eu ce phénomène. D'un candidat non politique qui a surgi et qui a bouleversé la donne. Ce phénomène-là, il est déjà rentré en France avec Emmanuel Macron. C'était un politique, mais je ne vais pas commenter longuement. C'est quand même quelqu'un qui n'était pas prévu pour être président de la République en 2017.
Éric Zemmour non plus.
Éric Zemmour non plus. Donc ça ne suffit pas pour en faire un argument d'une victoire future.
Mais enfin, c'est un phénomène qui a réussi et qui peut à nouveau réussir à nouveau.
En fait, ce qui se passe, c'est que, pour donner quand même une clé d'analyse, nous sommes dans un système politique qui n'est plus régulé aujourd'hui, qui n'est plus tenu. Charles Villeneuve, tout le monde le sait maintenant, ça. Les partis ne tiennent plus, ils tiennent leurs élus locaux, et c'est tout. C'est déjà pas mal, mais pas plus. Il n'y a plus de grands chefs, ni à gauche, ni à droite, comme il y en avait encore il y a quelques années. Nous n'avons plus cette grande gauche, cette grande droite qui cartélisait en fait le système politique. C'est extrêmement fluide, les opportunités sont innombrables. D'ailleurs, on le voit, parce que fleurissent beaucoup d'idées, de candidatures, de personnalités extérieures au champ politique. Donc il y a bien cette espèce, je dirais, de température qui a été saisie par des personnes qui ont l'intuition du contexte.
Très intéressant. Je vous propose un deuxième entracte, de quoi se finalement rafraîchir. Et on continue.
Europe 1, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Avec Dominique Reynier, directeur général de Fondapol, professeur à sciences politiques, nous continuons à examiner la situation des forces politiques, et notamment traditionnelles, cette fois-ci. Alors, Dominique Reynier, les forces politiques plus traditionnelles sont sorties vainqueurs des élections régionales. Est-ce que c'est le retour de l'ancien monde.
Non, je ne crois pas. D'abord, moi, je fais l'hypothèse que l'ancien ne revient jamais. Et c'est parfois d'ailleurs triste de se dire cela. Hein,
parce... Donc c'est un mythe.
C'est impossible. C'est des faits. C'est parti parce que ça n'avait pas la force de persister. Et ça n'a pas retrouvé la force en cessant d'exister. Donc c'est impossible. Impossible. Par contre, ce que ça révèle, c'est que les positions occupées par les partis qui autrefois dominaient le système, les positions locales en particulier, aux élections municipales, aux régionales et aux départementales, sont conservées parce que dans un contexte de grand désarroi, les Français ne sont pas allés voter. Donc ils n'étaient pas mobilisés pour faire tomber ces pouvoirs locaux, et ceux qui ont voté un peu par prudence ont préféré reconduire des majorités qui localement n'ont pas démérité, parce que localement, si vous voulez, ce que fait un président de région de droite ou une présidente de région de gauche et inversement, c'est à peu près la même chose.
Mais est-ce que ça n'est pas le résultat de la fin du cumul des mandats, de l'absence de débat au Parlement, du fait qu'on a dévitalisé complètement finalement le député?
Alors,
et donc, on se retourne vers le local.
Oui, mais le local, il n'y a pas d'enjeu au niveau local. Il n'y a pas d'enjeu. Les politiques menées...
Mais ça favorise les grands féodaux, on l'a vu.
Ça favorise les sortants, parce que ce sont des gestionnaires honorables des pouvoirs qu'ils ont, et qui sont des pouvoirs modestes, peut-être trop d'ailleurs, qui n'ont pas de portée idéologique. On ne peut pas être un président de droite et un président de gauche. En réalité, les électeurs ne font pas la différence. Je retiens au passage, Charles Villeneuve, votre remarque sur... La dévitalisation du Parlement, notamment à travers l'impossible cumul entre un mandat local et un mandat national, qui est un problème considérable qu'il va falloir poser à nouveau, parce que nous avons, Charles Villeneuve, des députés qui sont maintenant, n'ayant pas de mandat local, sont issus uniquement des partis politiques. Ça aurait pu les renforcer, les partis. Ça a continué de les affaiblir. Parce que qui choisit le candidat dans une circonscription? C'est le parti. Et quel candidat va-t-on choisir? Eh bien, quelqu'un qui est du parti, puisqu'il n'a plus d'autre mandat. Il n'aura plus aucune expérience locale. Il aura l'expérience du parti, de ses couloirs et de cette culture partitocratique. Et il va se retrouver député entre les mains du parti, plus que ses prédécesseurs, avec une culture très étriquée. Il faut peut-être ensemble songer à revenir sur ce non-cumul, en particulier entre le mandat de maire et le mandat de parlementaire. L'expérience de maire en particulier est une expérience extrêmement riche pour un élu. Elle lui offre le contact avec tous les sujets de la vie quotidienne de ses compatriotes, et ça ne fait pas le même parlementaire. Quand vous avez un député qui est maire par ailleurs, ça fait un parlementaire beaucoup plus au fait des problèmes de la vie quotidienne. Donc là, il y a quelque chose qui aussi s'est dévitalisé. Et je dirais, moi, que les partis anciens qui sont à la peine aujourd'hui ont voulu trop contrôler la vie politique, et ça a fini par se retourner contre eux. Donc l'ancien monde ne va pas revenir. N'enterrons pas trop vite le RN, je le dis au passage, parce qu'au régional...
Le
Rassemblement national au régional a fait quand même 20% des suffrages exprimés, ce qui est un très bon score. Et les autres partis ne peuvent pas exagérément se réjouir de leur succès au régional, puisqu'il est réel. Ce sont les sortants qui ont été réélus. Mais avec des bases électorales extrêmement fragiles, on triomphe difficilement quand on est réélu avec 15% des électeurs inscrits.
Donc on ne peut pas parler, comme nous l'avons fait tous, de revanche de l'ancien monde. Les Républicains ou le Parti Socialiste ne sont pas vraiment les vainqueurs de ce scrutin des régionales. En tout cas, quand on se projette sur les présidentielles.
Alors, il y a une tendance qui s'est confirmée, c'est qu'il y a une droitisation électorale en France, puisque la droite, grosso modo, a fait mieux que la gauche. Alors, ça ne se voit pas au niveau des régionales, mais ça se voit au niveau des départementales. Donc, il y a un peu mieux pour la droite. Mais, en réalité, partout, le vrai clivage, c'est que tous les sortants de gauche ou de droite ont été réélus, et tous les aspirants de droite ou de gauche, à l'inverse, ont été battus. Et donc, le clivage, c'est sortant, aspirant. C'est pas droite et gauche. Donc, les partis ne sont pas revenus. Ce sont, leurs élus locaux qui se sont maintenus.
Mais il y a une remarque qu'on peut faire. On a le sentiment, vous vous dites, la droitisation. Et d'ailleurs, Fondapol a sorti toute une étude en disant qu'il y a une droitisation dans toute l'Europe, dans tous les pays européens. Est-ce que je prends l'exemple de Carole Delga, bon, qui a été élue brillamment, qui a même fait progresser le potentiel de la gauche dans sa région. Et elle n'a pas craint de faire projeter les caricatures de Mahomet sur les murs de sa ville. Elle a refusé toute alliance avec les insoumis. Elle a été triomphalement réélue en Occitanie. C'est que bien des électeurs de gauche ont voulu signifier, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs auxquelles la gauche ne doit pas renoncer, notamment la laïcité, notamment l'identité.
Oui, l'identité républicaine, certainement, dans ce cas. C'est une certitude, cela, Charles Villeneuve. Pour des raisons qui seront éclairées un jour et qui restent encore énigmatiques, peut-être pour des raisons d'ailleurs sociologiques, peut-être que la gauche s'est embourgeoisée, littéralement, la gauche a perdu le fil de cette tradition qui l'a reliée aux couches populaires et aux classes moyennes, c'est-à-dire de défense non seulement de l'identité républicaine, non seulement de la laïcité, mais aussi des thèmes comme la sécurité, mais aussi du thème des frontières et de la régulation de l'immigration. La gauche a abandonné tout cela au fil des décennies. Ça fait à peu près, je dirais, 40 ans, ça fait beaucoup maintenant, 40 ans, 40, 45 ans, que la gauche n'ose plus, ne veut plus, est persuadée que l'évolution, elle va aller dans l'autre sens. De plus en plus d'indifférence à ces sujets-là. C'est le contraire. Il y a de plus en plus de sensibilité dans le monde occidental, d'ailleurs, pas qu'en France, à l'égard de ces sujets. Et quand la gauche s'en empare, à nouveau les assume, c'est le cas au Danemark, eh bien, elle gouverne, les sociodémocrates sont au pouvoir au Danemark. Quand elle veut les mépriser ou les ignorer, voire les fustiger, elle est perdue dans les marges de sophistication intellectuelle que les électeurs ne vont pas saisir, ou tout simplement en étant bannie par les électeurs du monde populaire.
Je vais revenir sur l'état de la gauche aujourd'hui en France, mais je voudrais finalement finir avec la droite, et notamment l'éventualité d'une primaire, mais surtout le fait que deux champions de droite, pour l'instant, se distinguent et progressent d'ailleurs, non seulement chez les électeurs de droite, mais aussi dans les sondages, c'est-à-dire Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Est-ce que finalement, c'est la meilleure manière, le meilleur chemin pour s'imposer, pour être le candidat qui peut troubler le jeu pour l'instant conduit par le chef de l'État?
Il n'est pas normal d'un point de vue politique que la droite LR ou assimilée, parce que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont assimilés au LR, d'ailleurs ils ont été investis par les LR lors des régionales. Il n'est pas normal que ce camp-là n'ait pas un candidat à présenter. À chaque fois, je ne vais pas dire une candidate ou un candidat, ça va sans dire. Ce vide-là, il va être comblé. Mais ça appartient au camp des LR. Il va falloir qu'ils choisissent assez vite maintenant, parce que malgré tout, le temps file. Il faut que très vite, ils se mettent d'accord sur un nom, sur un programme. Un nom ne suffira pas. Ça, c'est important, Charles Villeneuve. Je voudrais le partager avec les auditeurs. Aucun nom, aujourd'hui, ne fait autorité au point de pouvoir lever l'espoir sans rien dire. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a pas une figure qui, par son charisme, à droite, amènerait l'électorat à voter pour et après à se demander, mais au fait, qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'il veut faire. Ça veut dire que ce qui va être central, c'est le contenu du propos. Hein. Le projet, d'ailleurs, plus que le programme, parce que les mesures techniques, on s'y perd un peu. Le projet, l'aspiration, l'horizon, le destin. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays comme la France et dans un monde comme aujourd'hui pour maintenir cette existence qui est la nôtre? Il faudra des mots forts, il faudra des programmes clairs, il faudra des ruptures. Si on a à faire un débat technique mené par des personnalités qui n'ont pas beaucoup de charisme, il ne se passera pas grand-chose.
Alors prenons le cas Xavier Bertrand. Il a choisi une stratégie solitaire, indépendante. Il assume un positionnement social et sécuritaire. Il se réclame d'une droite populaire, ancrée sur le terrain, et méfiante à l'égard de Paris. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne méthode? Est-ce que c'est une recette gagnante?
Là où l'intuition qui est bonne chez Xavier Bertrand, d'une certaine manière aussi chez Valérie Pécresse, mais on pourrait dire la même chose...
Qui commence, elle aussi, à engranger.
Voilà. Mais on peut dire la même chose de Laurent Wauquiez, Charles Villeneuve. Cette façon de dire, c'est depuis les territoires qu'il faut construire quelque chose. Depuis Paris, même si l'Île-de-France comprend Paris, mais depuis la responsabilité dans les territoires, on peut construire quelque chose. Cette intuition qu'a eu Xavier Bertrand est une bonne intuition par rapport à l'époque. Repartir d'un travail plus concret, au plus près d'une population, d'un bassin de population et de problèmes très, très précis, c'est une bonne méthode. Ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, je suis certain que Xavier Bertrand sait que ça ne suffit pas. Il faut ensuite tenir un discours dans lequel on ne va pas reconnaître les discours, je dirais, confus, fumeux, ou au fond, sans arête, sans aucun tranchant, que l'on a entendu pendant des années, parce que l'époque le permettait, ça. Moi, je trouve tout à fait raisonnable qu'en politique, on ne dise pas des choses radicales, parce que généralement, c'est très difficile ensuite à mettre en place. Mais l'époque, aujourd'hui, n'est plus une époque de routine. C'est une époque de rupture. Ça va le rester jusqu'à la fin de nos jours. C'est fini. On est rentré dans une époque qui va être de rupture, une époque de révolution, de cassure, de drame, d'ailleurs, hélas, puis aussi d'espoir. Et donc, il faut que le discours politique s'adapte à cette époque. Si c'est pour avoir des propos millimétrés et techniques, il ne se passera rien. L'élection présidentielle, vous imaginez, on va demander aux Français de choisir une personne. Il faudra qu'il y ait un sacré courant.
Alors, prenons l'autre candidate, qui paraît aussi excellente, de la droite, c'est Valérie Pécresse, qui, elle, n'a pas choisi la radicalité. Au contraire, elle avance doucement, mais sûrement. On le voit, d'ailleurs.
Oui, elle construit. Ben, c'est des figures complémentaires.
Oui, mais il faudra choisir.
Il faudra choisir, mais c'est ce qui est très intéressant, alors ce serait passionnant si ce n'était pas par ailleurs préoccupant, parce que le pays, quand même, est dans une époque très troublée. Ce qui est passionnant, c'est que ce sont des figures différentes qui semblent pouvoir convenir à des moments différents. C'est-à-dire qu'au fond, si la France est un peu plus sûre de s'en sortir en 2022, une personne comme Valérie Pécresse peut apparaître comme plus fédératrice. S'il y a une sorte de coup de menton à donner, peut-être qu'on pensera davantage à Laurent Wauquiez ou à Xavier Bertrand. Mais ça, c'est, on ne le sait pas aujourd'hui.
Dominique Régnier, pour reprendre son souffle, troisième pause, et puis on va examiner l'état de la gauche aujourd'hui en France.
Les grands entretiens sur Europe 1. Charles Villeneuve.
Dominique Régnier, je souhaiterais vous entendre également sur l'état de la gauche aujourd'hui en France, ses divisions sur le fond, son émiettement entre plusieurs forces politiques dont aucune n'exerce véritablement d'attrait ni de leadership, semble quand même constituer des handicaps. Est-ce qu'ils sont insurmontables? Est-ce que la gauche a déjà perdu les présidentielles?
Là, ma réponse va être net et en forme aussi de jeu intellectuel que je partage avec vos auditeurs, Charles Villeneuve, parce que je dirais que oui. Et le jeu, c'est de dire, au fond, est-ce qu'il va se tromper, ce bonhomme qui nous dit ça? Et c'est bien possible. Mais je ne vois pas aujourd'hui ce qui permettrait à la gauche de jouer un rôle significatif au premier tour, encore moins d'accéder au second tour. Ça me paraît impossible. Voilà, c'est une tendance. La gauche sort de l'histoire. Elle a perdu beaucoup d'électeurs. Elle aura beaucoup de mal à les retrouver. Elle s'est trompée sur
mais
de grands sujets.
Mais est-ce qu'elle peut encore créer la surprise? Et est-ce qu'à tout le moins, entrevoir les conditions d'une renaissance? Parce que les élections régionales, quand même, ont montré que c'était encore une force qui pèse, qui compte.
C'est une force locale qui, comme la droite, fait réélire ses sortants. C'est une force politique qui, comme la droite, ne parvient pas à prendre les régions ou les départements qu'elle n'a pas.
Oui, parce qu'elle a retrouvé des couleurs à l'occasion, justement, des derniers scrutins locaux. Et dans la bataille pour le leadership à gauche entre écologistes et socialistes, il y a un tournant qui a été marqué et l'amorce par le Parti socialiste d'une reconquête de son hégémonie.
Moi, je ne le vois pas. Je crois qu'encore une fois, ce sont les sortants qui ont été réélus, hein. Et à gauche comme à droite, quand on n'était pas sortant, on n'a pas réussi à prendre une région. Il y a eu quelques départements qui ont changé, mais c'était très marginal. Non, le problème de la gauche, c'est que si on prend le parti supposé principal historiquement, qui est le Parti socialiste, sa bonne santé pourrait revenir d'un effacement du vote écologiste. Ce sont les mêmes électeurs, grosso modo, hein, qui vont voter pour les écologistes, pour aller vite. Et donc, les écologistes se présentent comme la gauche du futur au détriment du Parti socialiste. C'est la même chose dans d'autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne, hein. Ce qui fait prospérer les écologistes, c'est le déclin du Parti socialiste. Or, l'écologisme en France, c'est une gauche très singulière, c'est une gauche très bourgeoise, c'est une gauche qui est très idéologique, très, très radicalement hostile à l'économie de marché et à un monde, au monde tel qu'il va. C'est une niche, en quelque sorte, qui peut mobiliser ses troupes. Et on le voit, lorsqu'il y a beaucoup d'abstention, cette gauche-là, elle, la gauche donc écologiste, elle peut s'en tirer en prenant des villes aux municipales, mais pas beaucoup. Hein.
Mais est-ce que la prédominance des écologistes dans les endroits où il n'y avait pas beaucoup de sortants confirme leur dynamique ? On peut le dire, ça.
Moi, je ne vois pas de dynamique.
Ah oui.
Je soutiens que non. Je soutiens que les écologistes sont une force qui perd moins d'électeurs que les autres lorsqu'il y a abstention. C'est dans une érosion moins forte de son électorat que l'écologisme s'en sort un peu mieux. Mais sa vision de la croissance, sa vision du monde ne correspond absolument pas à ce que les Français aujourd'hui attendent, les Français de gauche, hein, en termes de sécurité, en termes de laïcité, en termes de partage des richesses, en termes de croissance du confort matériel. Ils ont à rebrousse-poil sur tous les grands sujets, à contre-pied sur tous les sujets clés. Je parle de la France de gauche. Et donc, je ne vois pas là autre chose qu'une espèce d'électorat...
La gauche classique.
Voilà, la gauche classique, la gauche populaire. Je vois un électorat bloqué, avec le vote vert, dans une espèce de frange sociologiquement très, très, très avantagée, très bourgeoise, des villes métropoles. Je rappelle qu'en France, les métropoles, plus de 100 000 habitants, hein, ça représente, Charles Villeneuve, 12% des électeurs inscrits en tout. 12% que... plus de 80% des Français, plus de 4, près de 90% des Français vivent hors des métropoles. Donc il y a là une espèce de déformation dans l'observation. La gauche socialiste n'a pas trouvé encore son chemin et elle est gênée par une gauche écologiste qui la séparerait, si elle voulait limiter, définitivement du monde populaire.
Alors, dans ce contexte, si je vous suis... de fracture idéologique de la gauche, est-ce que c'est possible qu'une candidature d'Anne Hidalgo puisse susciter un élan dans l'électorat de gauche ?
Anne Hidalgo,
la maire de Paris.
Oui, la maire de Paris. Anne Hidalgo, elle a une notoriété que peu de candidats potentiels à gauche peuvent revendiquer lorsqu'ils n'ont pas exercé de fonctions éminentes. Je veux dire, ils n'ont pas été comme Bernard Cazeneuve, Premier ministre, ou Manuel Valls, ou François Hollande, président, etc. Donc, ils n'ont pas cette visibilité-là. Donc, elle fait partie de ces personnalités qui, à gauche, ont une notoriété réelle. Maintenant, elle est maire de la capitale, maire de Paris. C'est très singulier comme position. Ça pouvait être un tremplin à une époque. Ça l'a été pour Jacques Chirac. Ça peut être un boulet aujourd'hui, au contraire. Parce que c'est une ville dont les Français sont un peu lassés, au sens où c'est le siège du pouvoir qui descend vers eux. Les Gilets jaunes font de Paris, en quelque sorte, la citadelle à prendre. Hein. C'est la France d'en haut, Paris, pour beaucoup de nos compatriotes qui sentent que les territoires sont méprisés, que les provinciaux n'ont jamais été vraiment considérés. C'est la Véronée qui ajoute ça, parce que je suis très sensible à cette espèce de tonalité parisienne. Et donc, il n'est pas simple, quand on a pour siège Paris, il n'est pas simple de devenir une figure présidentielle. Ça a été un peu le cas pour Nicolas Sarkozy, qui était maire de Neuilly. Mais Nicolas Sarkozy avait bâti un parcours politique de chef de parti et puis d'expérience gouvernementale qui permettait de compenser l'étroitesse, je dirais, du point de départ.
Alors, à gauche de la gauche, pour terminer, est-ce que la primaire des écologistes peut avoir raison des ambitions de Yannick Jadot et confirmer la radicalité d'Europe Écologie Les Verts ?
Ça aussi, c'est tout à fait étonnant. L'observation de l'écologisme en France et de l'écologisme de gauche ici nous montre depuis toujours, depuis les années 70, une préférence pour les formules qui donneront ensuite les plus mauvais résultats électoraux. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ce qui va être choisi par l'organisation, c'est probablement la candidature la plus radicale, la plus marquée idéologiquement, la plus en rupture avec le système français planétaire. Donc on ne doute pas de ses capacités, on le voit quand on fait ça. Mais présenter devant les Français comme une candidature à la présidence de la République, le résultat est médiocre ou pitoyable. Et donc il est possible que les écologistes ne choisissent pas Yannick Jadot, qui peut-être serait leur meilleur candidat, pour préserver une pureté idéologique qui aussi bien leur sera fatale, mais ils en ont l'habitude, hein, ils l'avaient fait précédemment.
Et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, à l'aube de sa troisième candidature présidentielle. Est-ce qu'il peut conjurer le risque de, je dirais, de l'essoufflement, d'une marginalisation progressive?
C'est la grande question qu'il doit se poser, en effet. Ça va être difficile pour lui, parce que depuis maintenant quelques années, de dérapage en coup de menton redoutable ou impressionnant, son image a profondément changé. Il a lassé, y compris au sein de son parti. On ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. Même ce qui faisait, je dirais, sa force, c'est-à-dire un discours impeccable, des références historiques maîtrisées, et puis une espèce de clarté dans le projet, a été brouillé ou mis en doute par des saillies, dont certaines très récentes, qui l'ont en quelque sorte discrédité. Ça ne va pas s'oublier facilement. Hein. Et donc, il va falloir pour lui, d'ici la présidentielle, rebâtir une crédibilité. Il aura beaucoup de mal à réitérer le succès qu'avait été sa candidature en 2017, qui a été réellement un succès extraordinaire et dont il a pu, on peut le comprendre d'ailleurs, sortir meurtri parce qu'il a vu qu'il n'était pas si loin, et c'est vrai qu'il n'était pas si loin que cela du second tour. Mais là, ça va être très difficile parce que beaucoup de dégâts ont été faits. On n'a jamais de pire ennemi que soi-même, on le sait. Ça s'est vérifié aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'au sein de son mouvement, on est en train de songer à la suite. J'ajouterai ceci, il faudra vérifier, et on va le voir dans les prochains mois, qu'il n'a pas de difficulté à trouver les signatures nécessaires pour sa candidature.
Mais vous savez que durant une campagne électorale, il est très bon.
Oui, il est très bon, mais il va falloir... Vous avez raison, c'est un tribun, on le sait, donc il bataille dans les généralités avec talent. On va retrouver probablement ce Mélenchon-là, mais on l'a beaucoup entendu, on l'a beaucoup vu. Et il y a aussi une usure de ce modèle rhétorique populiste et protestataire.
Alors, sur votre table de travail, vous avez souvent des sondages qui vous servent de toute façon d'avancer dans vos analyses. Et je ne dirais pas vos pronostics, parce que ce ne sont pas des pronostics, non. Ce sont des études. Et à l'heure de l'extrême volatilité de l'électorat, de la montée de l'abstention, de la perte des repères partisans traditionnels, est-ce que les sondages sont encore fiables ?
Étudier l'opinion, la société à travers des enquêtes par sondage est extrêmement difficile parce que étudier le comportement humain, étudier les phénomènes sociaux est extrêmement difficile. Et donc c'est indépassable comme difficulté. Nous n'avons pas beaucoup d'outils à disposition. Les sondages en font partie. Ils ont une grande utilité. Ils sont irremplaçables aujourd'hui encore. Je pense qu'ils sont en train d'être remplacés par d'autres outils, notamment l'analyse des données de masse que font probablement déjà les grandes plateformes américaines qui sans doute ont sur nous.
Que vous faites aussi.
Oui, alors qu'on fait aussi, mais avec des moyens très différents. Et il faudrait qu'on ait plus de moyens pour pouvoir s'y livrer davantage. Mais c'est ça aussi qui va nous éclairer. Ajoutons que les sondages ne sont jamais en eux-mêmes utiles si on ne les croise pas avec d'autres données, par exemple comme les résultats électoraux. Il faut garder les deux et ne pas faire le pari de n'en considérer qu'un seul.
Dernière question. Est-ce que les instituts doivent donc se remettre en cause pour mieux appréhender les mouvements de l'opinion ?
Les instituts, je pense d'ailleurs, se remettent en cause et cherchent, parce qu'ils ont intérêt à cela. Imaginer des outils complémentaires, peut-être même de futurs outils qui remplaceraient ceux d'aujourd'hui pour mieux mesurer l'évolution de l'opinion et nos propres évolutions en termes de mentalité, de préférence, de raison, de sentiment. Il y a des outils qui commencent à apparaître. Ça relève de l'énorme traitement des données numériques qui circulent, puisque les uns et les autres, un peu imprudemment d'ailleurs, nous disons beaucoup sur nos vies sur Internet.
Voilà, avec Dominique Régnier, j'espère que la direction de l'information d'Europe 1 vous a aidé à y voir un peu plus clair, puisque nous sommes à peine à 8 mois des élections présidentielles. C'est le dernier des entretiens de l'été. Dimanche prochain, à la même heure, entre 10h et 11h, sonnera le retour du grand rendez-vous politique avec aux commandes Sonia Mabrouk. Bon dimanche.